Donc, je vous ai donné il y a environ 2 mois donc un cours sur le thème de la déshumanisation dans les soins de santé plus particulièrement. Donc, on avait abordé les 4 premiers points et il nous restait le point sur les risques à aborder et puis le point sur comment remédier au constat qu'on fait de ce phénomène. Et puis conclure ensemble sur que retenir finalement comme message. J'illustrerai par quelques exemples d'actualité qui dépasseront un petit peu le champ de la santé, mais afin de rendre le cours un tout petit peu plus proche aussi de l'actualité. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre les risques du phénomène de déshumanisation dont on a parlé donc il y a 2 mois? Mais, c'est sûr qu'on constate que l'attrait pour la technique est marqué chez les étudiants en médecine, mais que l'engouement pour le côté plus techno-scientifique peut parfois conduire à sous-estimer la prise en compte des enjeux relationnels de la pratique et donc négliger la partie plus subjective de la pratique de la médecine. Donc c'est sûr que négliger cette dimension relationnelle, ben, ça peut revenir en tout cas à une forme de négliger l'humain, d'où la déshumanisation comme risque à ce phénomène. Donc un des risques, c'est le déplacement d'intérêt, où finalement il y a un passage de l'attention au malade à une satisfaction qui est tirée de la connaissance de la maladie, donc où à ce moment-là, on tombe dans le registre de l'ego, dans le registre du narcissisme ou de la toute-puissance. Donc le risque, c'est de banaliser l'humain. Autant le patient que même le soignant, finalement, qui peut, dans certains cas, se sentir banalisé dans le système dans lequel il travaille, si on tombe dans une forme de déni de l'autre, que ce soit le déni du soignant ou le déni du patient, le déni signifiant la négation de l'être humain qui est là et qui existe. Donc le fait de nier cette réalité-là. Ce qui peut mener à, dans des cas plus extrêmes, de violences insidieuses qu'on peut parfois observer dans certains systèmes ou dans certaines institutions, où on peut tomber, si on prend la forme extrême du phénomène de déshumanisation, dans une relation d'emprise, qui à ce moment-là n'est pas la même chose que la maîtrise. Donc il y aurait un glissement de la maîtrise vers l'emprise, où dans la maîtrise, il y aurait toujours une aptitude à reconnaître l'autre en tant qu'autre, mais on sous-entend qu'on fonctionne dans un système qui est ouvert, qui est adaptatif, qui favorise la différenciation du sujet. Si on glisse maintenant de la maîtrise vers l'emprise, l'emprise étant à ce moment-là l'illustration de la forme extrême d'une relation inégale qui est caractérisée par l'influence qu'un sujet exerce sur l'autre. Et à ce moment-là, ce genre de relation peut plus exister dans un système clos, un système fermé, donc un fonctionnement institutionnel qui fonctionne d'une manière plus homéostatique et qui ne permet pas l'évolution et la différenciation des personnes qui y travaillent. Donc là, on est vraiment dans des risques, mais extrêmes au phénomène de déshumanisation. Ce sont des exemples, évidemment. Un autre risque est de confondre les soins et le soin, les soins étant plus concernant plus les humains et le soin concernant plus un humain en particulier, où ça rejoint la dimension subjective de l'être humain en particulier dont on s'occupe et donc la dimension singulière. Le risque pouvant être aussi la dépression du soignant qui travaille dans le système ou la dépression du patient, mais en l'occurrence ici, c'était plus dans l'idée de la dépression du soignant qui peut vivre un sentiment de perte de rôle au sein du système. Si lui-même a le sentiment d'être banalisé, perdre un sentiment d'identité, de singularité, et donc éprouver ce qu'on appelle un sentiment d'aliénation, où on a l'impression alors que la différence entre un être humain, un individu et un autre devient progressivement floue et devient progressivement gommée. Enfin, il y a un tas de risques qu'on peut envisager à ce phénomène. Le délirium en soins intensifs est un exemple qui viendrait du fait que certaines personnes, dans des conditions médicales particulières et dans des conditions de santé particulières, peuvent éprouver un sentiment d'aliénation, un sentiment d'étrangeté dans un contexte où elles sont totalement désafférentées et désorientées, notamment au niveau spatio-temporel, quand il n'y a plus que les machines ou le bruit des machines autour d'elles comme point de repère et que, quelque part, il manque la dimension relationnelle autour. Mais encore une fois, c'est dans des circonstances médicales très particulières, mais c'est pour illustrer ce genre de phénomène. Un autre risque, ben évidemment, est un appauvrissement relationnel, donc dans le cadre de phénomènes de déshumanisation, où je me rappelais la définition de la santé par l'Organisation mondiale de la santé, qui est un état de bien-être complet, physique bien entendu, mais aussi mental et social, et pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Alors, on constate dans l'évolution de la société un phénomène de plus en plus récent de judiciarisation de la médecine, où quelque part, les auteurs qui se sont penchés un petit peu sur le thème de la déshumanisation se sont rendus compte que c'était peut-être pas par hasard qu'on arrivait à des phénomènes de judiciarisation de la médecine actuellement, où parallèlement à la technicisation de la médecine, on voit apparaître finalement chez les patients une attitude de plus en plus revendicative des patients. Et donc certains se sont dit, ben, est-ce que finalement c'est pas en réaction à un phénomène subtil parfois de déshumanisation que les patients revendiquent de plus en plus leurs droits, le droit d'être informés, de consentir aux soins proposés, etc. Ou finalement le meilleur antidote à la banalisation de l'humain, ce serait l'attitude de ces patients qui est nettement moins passive qu'auparavant. Donc en tout cas, ce sont des pistes de réflexion où on tend de plus en plus à une position de médecin qui est de moins en moins le divin dépositaire du savoir comme on était avant. Alors, au niveau de l'actualité, on peut illustrer de beaucoup de façons. Il y a tous les phénomènes, par exemple, au niveau des humanisations, banalisations, qui concernent, par exemple, la marchandisation du corps. Où là, on a l'impression qu'on tombe notamment dans l'exploitation commerciale de l'image, notamment le corps de la femme, quand on tombe sur certaines images publiques, pornographiques également, il y a tout le débat aussi sur les mères porteuses, qui mène au problème, ça touche un autre domaine, mais tous les exemples de location d'utérus, par exemple, où certains disent que la femme est à ce moment-là réduite au statut de pondeuse, où on peut tomber dans une forme de chosification de l'enfant et de la mère en les mettant au service d'autres personnes. Tout ça est très contextualisé, évidemment. Il y a des cas où les enjeux sont tout à fait différents. Mais ça peut être une dérive, en tout cas, de tout cet aspect. Dans un autre domaine, on a par exemple aussi récemment des histoires avec les policiers qui à Bruxelles ou je ne sais plus où avaient violenté des SDF. On peut se dire, est-ce qu'on n'est pas parfois dans une forme de déshumanisation subtile qui fait qu'il y a certains aspects qu'on ne voit plus. Il y avait eu un scandale en France aussi sur la douce violence dans les établissements d'accueil du jeune enfant, où finalement, des petites phrases semblant anodines qu'on lançait aux jeunes enfants quotidiennement pouvaient s'avérer parfois traumatisantes pour certains d'eux, où finalement, ça posait vraiment une question entre ce genre d'attitude et puis finalement la reconnaissance des droits de l'enfant, où la maltraitance était condamnée par la loi, et avec dans certains établissements d'accueil qui sont censés être éducatifs, qu'en est-il finalement de ces pratiques éducatives ? Donc, il y a vraiment un tas d'exemples, des licenciements aussi très abrupts dans certaines sociétés sur 10 minutes où finalement on ne comprend pas très bien les enjeux. Tout ça peut illustrer, sous certains aspects, des phénomènes qui peuvent s'apparenter en tout cas à une déshumanisation subtile de l'être humain, où finalement certains disent qu'à la violence ultra-subjective du mal-être individuel, donc c'est quelque part le mal-être de l'individu, ça reste quelque chose de subjectif, mais c'est comme si à ce mal-être subjectif-là répondait une violence plus objective, qui devenait elle-même ultra-objective, et qui traitait aujourd'hui finalement beaucoup d'humains comme des choses ou des marchandises, des êtres jetables ou des êtres interchangeables, qui à ce moment-là n'avaient plus réellement de place. Dans leur subjectivité. Donc voilà, c'était pour ouvrir la réflexion là-dessus. Cette réflexion-ci étant une réflexion du professeur Trifot, qui était un psychiatre qui travaille dans la région de Liège et qui avait réfléchi sur ce thème-là, notamment en illustrant cette réponse de violence ultra-subjective à la violence ultra-objective de la société. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a qui voulaient réagir. Alors, on va maintenant aborder la partie des solutions, quelque part, qu'on peut envisager à ce phénomène. Donc, on avait distingué, donc, suite à la réflexion d'auteurs américains sur le sujet qui était Sultan Haack et Adam Weiss, qui avaient différencié des causes non fonctionnelles et des causes fonctionnelles au phénomène de déshumanisation. Donc, je vous propose de les reprendre une par une et de voir un petit peu les solutions qui ont été envisagées. Donc, maintenant, il est clair que certaines solutions s'appliquent à plus qu'une seule cause. Donc, là, ça paraît très, très chirurgical comme approche. Mais c'est sûr que, voilà, dans la colonne solution, mais on peut se dire que mais finalement, c'est comme un remède aussi à plusieurs des causes. Donc, au niveau des pratiques désindividualisantes, ben, voilà, il faudrait tendre vers plus d'individualisation en tout cas. Donc, on constate que finalement, les soignants et les patients sont quelque part désindividualisés, on peut le voir comme ça, par l'uniforme qui distingue l'appartenance au groupe, puisque les soignants portent une blouse blanche dans la plupart des disciplines, en tout cas, où quelque part, ça peut gommer de manière, homogène l'individualité via les vêtements professionnels. Certains disent que si on diminuait cette différence, cette distinction d'appartenance au groupe, ça pourrait augmenter un sentiment de responsabilité chez les professionnels. Maintenant, voilà, il est clair que cette distinction peut aussi être importante, en tout cas dans une certaine mesure, pour que chacun reste dans son cadre et que le patient puisse aussi accepter les soins d'une manière plus facile. Donc tout ça, c'est une piste de réflexion, mais ça peut permettre dans certains contextes, en tout cas, de prendre conscience que à travers l'uniforme, il y a peut-être certains enjeux qui peuvent se jouer. Donc une solution, en tout cas, pour y remédier, c'est d'avoir un état d'esprit où finalement on passe, et là il y a une erreur, c'est pas du malade à la maladie, ni de la subjectivité à l'objectivité, mais c'est, il faudrait pouvoir passer de la maladie au malade, donc de l'objectivité à plus de subjectivité, donc reconnaître la dimension subjective de l'individu que l'on soigne dans notre profession médicale. Alors, tout ça, ben, ça peut passer par une meilleure gestion des équipes et une éthique, pardon, du quotidien. Donc, quelque part, ce n'est pas sans une réflexion d'équipe qu'on peut aussi arriver à modifier l'état d'esprit sur ses causes et sur ses difficultés. Donc, ça pose la question, au sein d'une équipe, comment développer une confiance raisonnable, susceptible de constituer un climat favorable, ou quand il y a des problèmes dans la prise en charge de patients, mais pouvoir oser réinterroger les procédures d'accompagnement. Et Michel Dupuis, qui est quelqu'un qui réfléchit sur le thème de la banalisation de l'humain, propose une relecture éthique des situations de soins, où quand une situation de soins pose problème, une relecture en équipe dans une visée éthique peut aider. Alors, par rapport au deuxième problème, qui était ce dont on avait parlé la première fois, qui était la diminution de l'agency, donc la capacité de planifier des patients, la capacité de penser, de faire des choix, de s'organiser. Donc, tout ce qui était les capacités cognitives des patients qui sont souvent diminuées, qui sont souvent, en tout cas, pas tout le temps, mais dans la plupart des cas, altérées quand les patients sont hospitalisés. Ben, certains disaient, ben voilà, il faudrait essayer, quand ils sont à l'hôpital, de trouver des petites façons de restaurer ces capacités-là chez le patient, de lui permettre d'avoir une part d'acteur plus grande dans sa prise en charge. Donc même s'ils ont des facultés affaiblies, ben, leur rappeler qu'ils ont quand même la capacité, à certains niveaux, de penser, de faire des choix. Donc en les impliquant peut-être plus dans leur prise en charge ou en leur confiant certaines tâches, dans leur séjour hospitalier, ça permettrait en tout cas d'éviter qu'ils se sentent totalement déshumanisés, pour reprendre le terme. Voilà. Donc, au niveau maintenant de cette différence médecin-soignant dont on avait parlé, hein, des dissemblances médecin-patient, si on reprend la colonne, promouvoir la similarité peut être une solution, en tout cas pour certains, ou pour étendre à diminuer la différence comme source de déshumanisation, puisque partant de ce postulat-là, c'est le postulat que la différence entre les médecins et les patients peut être une des sources de déshumanisation. Donc, il y en a qui disent, ben, en en promouvant la diversité raciale, la diversité ethnique, la diversité de genre chez les médecins et en essayant de les appareiller avec ces mêmes caractéristiques chez les patients, ça permettrait de tendre vers un niveau plus basique de similarité et donc peut-être d'éviter ces disparités dans les soins. Voilà. Au niveau aussi de l'aspect humanité, en mettant l'accent sur l'humanité commune que les médecins partagent avec leurs patients, donc quelque part l'aspect de vulnérabilité à l'invalidité, de vulnérabilité à la maladie, de mortalité commune, finalement, ça permet aussi d'avoir une vision différente de cette dissemblance médecin-patient. Donc, encore une fois, c'est sûr qu'il y a toute cette réflexion qui part d'observation et d'observation du terrain et d'études aussi qui ont été faites où on s'aperçoit qu'il y a parfois des biais de jugement, notamment dans l'évaluation de la douleur, comme j'en avais parlé la fois dernière, où, par exemple, il y avait des études qui avaient été faites aux urgences à Atlanta et à Los Angeles où on avait vu que, selon le pays, on voyait que les médecins blancs avaient tendance à sous-estimer la douleur des patients hispaniques et des patients noirs. Mais que quand l'estimation était bonne, même quand l'estimation de la douleur était bonne, mais il y avait une sous-prescription des antalgiques quand il s'agissait d'un groupe de patients minoritaires. Donc ça posait quand même des questions et qu'on voyait qu'à l'intérieur même d'une même ethnie, les différences culturelles pouvaient aussi entraîner une sous-estimation de la douleur ou quelque part... on parle souvent du syndrome méditerranéen, où on dit « Oh, mais celui-là, il exagère la douleur. Hein. Oh, mais certainement qu'il y a une exagération. » Mais on ne parle jamais, par exemple, du syndrome asiatique. « Ah, celui-là, il doit certainement sous-estimer sa douleur. » Donc, c'est des manières de voir les choses, mais qui sont finalement assez pertinentes, où ça attire en tout cas l'attention sur la notion peut-être culturelle aussi de ces biais de jugement dans l'évaluation de la douleur, par exemple. Alors, comme solution à la mécanisation, il y en a qui prônent plus de personnification et de procédures humanisantes. Donc, la personnification se distingue de l'individuation en tant que la personnification met en évidence les caractéristiques personnelles qui distinguent les personnes des objets, tandis que l'individuation, c'est plus la notion qu'un individu se distingue de la masse des autres individus. Donc certains disent, comme procédure plus humanisante, plus personnifiante, on pourrait par exemple supplanter les identificateurs numérisés, donc où le patient est identifié via un numéro. On pourrait supplanter ça en mettant une information plus centrée sur la personne. Inviter le médecin à demander l'une ou l'autre information sur l'histoire personnelle du patient lorsqu'il fait le tour de salle. Ce sont des petites choses... Certains se sont dit, le but, c'est de quitter finalement le règne de l'anonyme, quitter le règne de l'interchangeable. Donc c'est un petit peu dans cette idée-là. Alors, au niveau de la diminution de l'empathie, dont j'ai pas mal parlé la fois dernière, il y en a qui disent, il faudrait pouvoir trouver finalement le juste équilibre empathique avec... le juste niveau de résolution cognitive des problèmes. Donc, je vous avais expliqué qu'on s'était demandé, finalement, pourquoi est-ce qu'il y avait une diminution d'empathie au fur et à mesure que les étudiants de médecine avançaient dans le cursus et au fur et à mesure que les médecins étaient amenés à gérer des situations médicales complexes. Et une des pistes de solution, c'était de dire que il y avait deux réseaux neuronaux qui travaillaient en même temps à ce moment-là, le réseau qui s'occupait des problèmes non sociaux, des problèmes cognitifs, et puis le réseau émotionnel qui, lui, pouvait mettre en œuvre les mécanismes d'empathie, et que les deux réseaux, c'était très difficile qu'ils travaillent en même temps. Et donc, une diminution dans un réseau favorisait l'augmentation dans l'autre et vice-versa. Et donc, finalement, diminuer l'empathie permettait de favoriser la résolution cognitive des problèmes non sociaux. Et donc, on était finalement face à ces deux niveaux. Et donc, que le chirurgien en salle d'opération, quelque part, diminuait volontairement ou automatiquement son empathie pour pouvoir être performant dans la résolution plus concrète du problème qu'il avait à faire, à savoir opérer. Donc, on voit que L'empathie est importante dans certains contextes, mais peut-être nuisible dans d'autres. Donc le chirurgien va peut-être augmenter son empathie dans son cabinet de consultation, mais la diminuer au bloc opératoire. Le psychiatre va peut-être la diminuer lorsqu'il est dans une situation de crise, mais l'augmenter lorsqu'il est dans des suivis plus à long terme. Donc ce sont des choses, en tout cas, sur lesquelles on peut réfléchir. Et la réflexion a été poussée plus en avant, en tout cas par certaines universités, notamment aux États-Unis, où certains se sont dit, finalement, on parle de ce problème-là, mais ça sélectionne peut-être aussi une certaine population d'étudiants. Et donc, est-ce qu'on ne devrait pas prendre ce paramètre d'empathie en compte dès la postulation pour les études et évaluer les compétences interpersonnelles? Alors, certains ont dit, il faut faire passer des questionnaires d'empathie. Et puis d'autres ont dit, oui, mais c'est compliqué. Et donc, aux États-Unis, il y a plusieurs universités, il y en a 8 en fait aux États-Unis, qui actuellement font passer le MMI, qui est le Multiple Mini Interview, qui permet en fait de tester plus ces compétences relationnelles et interpersonnelles chez les étudiants, où on met l'étudiant dans une situation où il doit réfléchir sur une petite situation de la vie, et puis on voit un petit peu comment il réfléchit. Donc je vais vous donner un petit exemple tout de suite. En sachant que donc, cette mise en situation, qui est juste une réflexion, donc on ne lui demande pas de réellement agir et de jouer un rôle, c'est juste une discussion, mais c'est un interview qui se concentre à évaluer les capacités d'établir de la confiance, par exemple, de la réactivité émotionnelle, de la collaboration effective dans les équipes, et qui mesure la pensée et ce genre de performance-là. Et on voit que la performance à cette interview prédit aussi des scores sur des examens qui arrivent beaucoup plus tard dans le cursus, où finalement, ça teste les processus de décision dans la population de médecins, ça teste les interactions avec le patient et ça teste aussi une forme de compétence culturelle. Donc, par exemple, un exemple de petite situation. On demande donc à l'étudiant, lors de la postulation, de réfléchir un peu sur une histoire où on lui dit, voilà, un ami proche qui est avec toi en première année de médecine te dit qu'on a récemment diagnostiqué à sa mère un cancer du sein. Et donc, il te dit qu'il se sent vraiment débordé par ses études et qu'il considère d'abandonner ses études pour passer plus de temps auprès de sa mère. Comment est-ce que tu conseilles ton ami? Donc voilà, ça c'est, bon, c'est difficile, mais il n'y a pas une bonne réponse, mais c'est voir comment est-ce que la personne va réfléchir, qu'est-ce qu'elle va envisager dans la situation. Un autre exemple, peut-être un petit peu plus concret ou plus, entre guillemets, plus amusant, même si ce n'est pas tellement, mais donc Joe est un délivreur de pizza, on va dire comme ça, et il est dans une situation où la pizzeria pour laquelle il travaille lui donne 30 minutes ou moins pour délivrer sa pizza au client. Et s'il arrive après ces 30 minutes, à ce moment-là, lui, il doit payer, il doit rembourser quelque part au client pour le retard qu'il a. Et donc, il se fait que sur une de ses courses les plus récentes, il y avait une il a rencontré une dame qui était en train de saigner dans la rue, puis il se retrouve évidemment dans une situation stressante. Il se dit, il n'y a personne autour, qu'est-ce que je fais? Est-ce que elle semble incapable de bouger par elle-même? Est-ce que je prends du temps pour soigner la dame ou pour en tout cas appeler le SMUR ou prendre cette situation en charge? Ou est-ce que je me dépêche pour aller livrer ma pizza? En sachant que s'il retourne encore une fois bredouille au magasin, il risque de perdre son job, ou en tout cas, s'il dit à son patron qu'il est arrivé en retard et qu'il a dû indemniser le client, il risquera de perdre son job parce qu'il est déjà dans un intérim, donc il n'y a pas beaucoup de chances d'être gardé. Ce genre de situation, et donc on demande à l'étudiant, mais qu'est-ce que vous pensez que Joe devrait faire dans cette situation? Justifiez votre solution en termes de considérations pratiques et éthiques aussi. Donc, ce genre de situation un petit peu tirée par les cheveux peut-être, mais des situations de la vie, et puis donc on voit un petit peu comment la personne réfléchit. Il semblerait en tout cas que ça puisse prédire certains résultats sur des examens futurs, que ça puisse évaluer des processus de décision, des compétences interpersonnelles, et donc c'est intéressant de voir qu'en tout cas certains ont poussé la réflexion un petit peu plus loin. Je vois que ça suscite en tout cas des réflexions parmi vous. Il y en a certains qui ont envie de réagir ou de partager des choses. Ok, mais je vous laisserai en discuter avec vous par après. De manière générale, quelque part,
comment
finalement équilibrer l'empathie de la meilleure manière possible. Mais un autre point de vue serait de dire qu'au lieu de se tracasser des patients et encore toujours des patients, c'est aussi se tracasser de la santé des soignants. Dans l'idée de prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Donc, viser un meilleur travail en équipe et viser plus de bienveillance dans les établissements de soins. Ou finalement, dans certaines structures, on voit que le manque de bienveillance, des atmosphères relationnelles difficiles, ou le manque de matériel adapté peut donner la sensation à l'humain qui travaille d'être banalisé, d'être négligé. Donc ça attire l'attention sur le lien social au travail qui est important dans les systèmes de soins, encore plus particulièrement, où ça permet quelque part, si il est bon, ce lien social, de prévenir la souffrance des soignants aussi. Donc ça permet un meilleur partage des émotions avec le patient, donc entre le soignant et le patient, un meilleur partage des émotions au sein de l'équipe, où finalement le groupe peut jouer un effet de régulateur social. Et donc, où, si les équipes sont sensibles à cet aspect-là, ça peut déboucher sur la mise en place de formations, car la douleur morale, évidemment, peut guetter dans de multiples situations de soins, qu'elles soient en psychiatrie ou en médecine plus somatique. Donc, au niveau de la dernière cause, si on reprend le tableau, finalement, comment lutter sur le désengagement moral ? Prôner plus d'engagement moral, c'est pas chinois. Maintenant, il y en a qui disent comment concrètement le faire. Certains se sont rendus compte que, évidemment, les disciplines plus techniques qui utilisaient la technologie, ça facilitait le désengagement moral. Ou finalement, beaucoup d'attention que les médecins fournissent lorsqu'ils sont en face à face, ça diminue quand la technologie est introduite dans le diagnostic et dans le traitement. Et donc certains ont dit, on pourrait inclure par exemple dans les professions comme la radiologie une photo du patient. Et alors il y en a qui se sont dit, on va vraiment faire une étude là-dessus pour voir si ça change quelque chose ou si c'est juste une vue de l'esprit. Et certains se sont rendus compte que ajouter une photo du patient sur les scans, sur les scanners, en demandant d'une façon randomisée aux radiologistes d'examiner les scanners accompagnés d'une photo et ceux qui n'étaient pas accompagnés d'une photo a permis de montrer que ceux qui avaient regardé les scanners avec photo avaient apparemment donné des diagnostics plus précis et que ça avait encouragé des meilleurs résultats cliniques. C'est intéressant, ça permet en tout cas de se poser la question de jusqu'à quel point est-ce qu'il faut que le soignant soit engagé dans le processus et jusqu'à quel point est-ce qu'il est fonctionnellement intéressant aussi qu'il ne soit pas trop engagé dans le processus. Donc c'est vraiment toute cette limite. Puisqu'on avait vu que, de manière fonctionnelle, ça pouvait revêtir un aspect défensif de ne pas être trop engagé non plus dans le processus. Donc voilà, on a le temps de conclure à notre aise. Donc finalement, toute cette réflexion amène un petit peu la question de comment est-ce qu'on trace la limite entre la déshumanisation fonctionnelle et la déshumanisation non fonctionnelle ? Puisque si on reprend le tableau, vous aviez six causes qui avaient été envisagées par les auteurs américains, qui étaient au niveau des causes non fonctionnelles, les pratiques désindividualisantes, l'altération de l'agency et les dissemblances médecin-patient. Et au niveau des causes fonctionnelles, c'était la mécanisation, la diminution de l'empathie et le désengagement moral, pour ceux qui n'ont pas les dias du cours précédent sous les yeux. Donc, quelque part, au niveau des causes fonctionnelles, comment est-ce qu'on peut tracer la limite entre les deux ? C'est se demander, les causes fonctionnelles, c'est si les aspects ne sont pas nécessaires pour l'efficacité du soin. Donc, la mécanisation, la diminution de l'empathie et le désengagement moral, on parle de causes non fonctionnelles parce qu'elles ne sont pas nécessaires pour l'efficacité du soin. Elles sont quelque part transitoires et elles semblent en accord avec les demandes cliniques directes. Maintenant, il faut garder à l'esprit que ces trois mécanismes-là peuvent être aussi dangereux s'ils ne sont pas utilisés spécifiquement, mais qui peuvent être salutaires quand ils sont utilisés comme ressources, s'ils sont utilisés avec prudence, à petite dose et dans des contextes spécifiques. La diminution d'empathie, par exemple, comme je vous ai expliqué, ce n'est pas absolument nécessaire pour l'efficacité du soin, mais dans certaines circonstances, dans les circonstances où les capacités cognitives doivent être mobilisées d'abord, à ce moment-là, la diminution d'empathie peut être utile. comme j'ai illustré tout à l'heure, la mécanisation de manière similaire, c'est-à-dire que c'est inhérent à la profession médicale de devoir décomposer l'être humain en sous-systèmes, mais en soi, c'est quelque chose qui, donc c'est nécessaire pour l'efficacité du soin, c'est quelque chose qui est transitoire parce que le but est d'arriver finalement à une unification de la personne dans la manière dont on va la voir. Donc c'est quelque chose qui est inhérent au soin, c'est nécessaire. Donc mais voilà, c'est, si ce n'est pas utilisé spécifiquement, mais ça peut être dangereux parce qu'à ce moment-là, on tombe dans la déshumanisation, on soigne un organe, on oublie qu'on a affaire à un être humain, etc. Donc c'est une ressource qui permet de se focaliser mieux si on est spécialiste sur un organe, mais ça doit être utilisé avec certaines limites. Hein, donc, et même chose pour le désengagement moral. Donc, ces trois mécanismes-là, on les appelle fonctionnels parce qu'ils peuvent être nécessaires pour l'efficacité du soin, mais dans certaines circonstances. Voilà. Les trois autres, la désindividualisation, l'altération de l'agency et les dissemblances médecin-patient, on parle de causes non fonctionnelles, c'est-à-dire qui ne sont pas nécessaires pour l'efficacité des soins. Donc les trois premières, celles de la DIA avant, on parle de causes qui peuvent être fonctionnelles. Celles-ci, elles ne sont pas fonctionnelles. Elles n'ont pas de fonction, elles n'ont pas de but. Ça ne sert pas à l'efficacité du soin. Et ce n'est pas intrinsèque aux nécessités d'un soin médical efficace. Donc, une autre manière de dire les choses est de dire on peut se passer de ces trois choses-là pour pouvoir donner un soin qui est efficace. On n'a pas besoin de tomber dans ces mécanismes-là pour être efficace. Tandis que les trois autres, ben parfois, ça peut être une ressource qui est utilisée dans certains contextes. Donc, finalement, ça pose la question de la place du médecin et de la question aussi de pouvoir ajuster son positionnement à chaque être humain singulier. Parce que là, on fait un gros travail de décortiquage, d'essayer de comprendre mais d'où ça vient, pourquoi est-ce qu'on tombe parfois dans telle ou telle situation. Mais finalement, on en revient à ça, c'est pouvoir ajuster son positionnement à chaque être humain singulier. Et finalement, c'est ça, l'art du soin, l'art médical. Donc, par exemple, la place du médecin généraliste est intéressante parce que on remarque que dans la relation médecin-malade, c'est finalement ce qui prime au-delà, c'est un apprentissage à entendre. Donc, au-delà des mots, M-A-U-X, à travers les mots M-O-T-S, il y a aussi toute une part du soin qui se fait dans le discours du patient et dans ce qu'il dit. Et donc, on voit, pour illustrer la place du médecin généraliste, que finalement, en médecine générale, c'est Michael Balint qui disait ça dans un de ses livres, qui est un médecin généraliste qui a beaucoup théorisé sur la relation médecin-malade et qui a parlé aussi de supervision avec des psychiatres pour les médecins généralistes, où il disait que finalement, le médicament de beaucoup, le plus fréquemment utilisé en médecine générale, ben, c'est souvent le médecin lui-même, finalement. Mais dans aucun manuel, il n'existe la moindre indication sur la dose que le médecin doit prescrire de sa propre personne, ni sous quelle forme, ni à quelle fréquence. Donc finalement, on se prescrit soi-même en tant que médecin, mais il n'est pas mis comme pour un médicament à quelle dose, ni à quel rythme, ni à quelle fréquence. Mais ça a un sens dans le soin avec le patient aussi. Donc on en revient à cette notion de dosage d'empathie, un pied dedans, un pied dehors, au bon moment, pas au bon moment, pourquoi, etc. Donc tout ce dont on vient de parler. Et donc ça implique, dans certains cas, un changement de personnalité du soignant pour pouvoir s'adapter à chaque être humain singulier qu'il a en face de soi. Et certains disent que finalement, puisqu'on parle de la banalisation du soin, que le ferment de la banalité, donc ce qui alimente la banalité, c'est chez certains la culpabilité de penser dans un souci de conformité, ou alors tout le monde fait la même chose, on a des pratiques uniformes, et donc c'est ça qui peut alimenter en tout cas un phénomène aussi de banalité ou de banalisation, et donc que chacun puisse oser remettre parfois en question ses pratiques de soins. Donc voilà, tout ça, c'est toujours pour dire dans le sens d'une reconnaissance de la singularité du patient, de considérer l'individualité au cœur de la situation de soins, de pouvoir réfléchir sur les balises éthiques des situations et d'être attentif à ce que certains appellent l'intelligence du singulier, donc de pouvoir exercer finalement sa pensée, donc ne pas appliquer des techniques, juste comme des recettes de cuisine, mais pouvoir créer en situation, donc il y a une part de créativité aussi, ce qui apparaît comme le plus judicieux au regard des caractéristiques singulières de la situation. Parce que c'est sûr que même si à un moment donné, on tombe dans une forme de protocole, dans une forme de manière de soigner telle ou telle maladie de la même façon, ben, à un moment donné, il y a toujours une situation qui reste singulière. Parce que le patient est toujours différent, parce que la situation est toujours différente, etc., etc. Donc, les outils concernent les humains, mais la pratique soignante s'adresse évidemment à un humain en particulier. Donc, c'est vraiment cette notion que je voudrais que vous reteniez, c'est l'aspect de la singularité de la situation de soins qui est toujours en face de soi, l'aspect de la subjectivité. Même si on travaille avec des notions objectives en médecine, il y a quand même toujours une part de subjectivité qui reste là. Donc, au niveau de la conclusion, finalement, c'est déployer au sein des structures de soins et des équipes de soins une vigilance, donc toujours garder cette vigilance, même si on s'enfonce dans le métier, qui conduit à interroger les manières d'être et les manières de faire. On regarde la singularité des situations de soins pour permettre individuellement et collectivement de progresser vers un système de soins qui est basé sur l'humain, mais non pas sur l'organisation des pratiques de soins que le système de soins requiert. Voilà. Donc, quelque part, garder les yeux grands ouverts et être attentif à toute cette dimension humaine qui restera chez les patients que vous aurez à soigner. Voilà. Je vous remercie bien pour votre attention et je terminerai sur une petite phrase d'Hippocrate qui est « Guérir parfois, soulager souvent, mais consoler toujours ». Voilà, je vous remercie.